avant toute chose à Aude pour son invitation et son accueil. Et d'ores et déjà, je vous prie de m'excuser pour cette pénible voix. Je suis un petit peu malade et dans un état un peu brumeux, donc j'espère que l'exposé n'en sera pas affecté pour autant. J'essaierai d'y veiller le plus possible. Je souhaiterais contribuer à cet effort de réflexion collectif sur le virtuel, en abordant le virtuel comme un concept, et donc à partir d'un domaine spécifique, celui de la philosophie, et plus précisément de la philosophie française contemporaine, à travers l'œuvre de Gilles Deleuze, qui est né en 1925 et mort en 1995, qui, comme on sait, fait une large, très large part à ce concept de virtuel hein, dans toute sa pensée. Toutefois, mon objet ne sera pas l'œuvre de Deleuze en elle-même, mais bien le concept de virtuel, et c'est pourquoi je vous propose plutôt un parcours sélectif donc, dans les analyses deleuziennes pour en dégager quelques analyses et quelques pistes qui, je l'espère, seront utiles, fécondes pour notre réflexion et puis pour les discussions qui pourraient s'en suivre. Il est à noter que cet usage que Deleuze fait du virtuel, et c'est ce qui me frappe hein, à titre juste de remarque et de préambule avant de me lancer dans le vif du sujet, il est à noter que cet usage que Deleuze fait du virtuel et qui résonne si fort à nos oreilles d'aujourd'hui est cependant complètement indépendant de ce que l'on pourrait appeler une culture numérique. Les travaux sur lesquels Deleuze s'appuie sont complètement extérieurs à ce type de culture, pour cause, hein, cette culture n'était pas suffisamment développée. Bon, Deleuze fait allusion à quand même à quelque chose qui serait bon, de l'ordre des images, bien sûr, hein, il parle du cinéma, de la télévision, il parle aussi d'Internet dans les pourparlers, mais néanmoins les travaux sur lesquels il s'appuie, où il constitue intégralement dès 1956-66, dans le premier moment de sa pensée, les travaux sur lesquels il s'appuie concernent plutôt l'ontologie, la métaphysique et, alors pour des domaines positifs, l'épistémologie des mathématiques et de la biologie. Je ferai allusion tout à l'heure à cette épistémologie de la biologie. Pour le dire d'emblée, et pour commencer à entrer dans le vif du sujet, le concept de virtuel est chez Deleuze inséparable d'une thèse qui fournit en effet son titre, qui n'a pas changé, à mon intervention, la réalité du virtuel, car il y a une réalité du virtuel. Mais il s'agit d'une réalité spécifique au virtuel, propre au virtuel, d'un mode d'être propre au virtuel, et c'est ce qu'indique ici, ce que je voudrais indiquer ici, le génitif que j'ai fait figurer dans ce titre, la réalité du virtuel, selon une formule qui cherche à se démarquer volontairement de l'expression courante, la réalité virtuelle, pour y introduire, par le génitif, pour y introduire un écart, une distance, qui ouvre un espace de réflexion de nature métaphysique, de nature ontologique, en ce sens que c'est ce qui concerne une logique de l'être, hein, une théorie de l'être, une conception de l'être, qui fait une part considérable à ce concept de virtuel. Le problème qui sous-tendra mon propos, pour le dire là aussi d'emblée, est le suivant. Si le concept de virtuel possède une réalité, ce n'est cependant pas au sens où il pourrait être identifié à une chose ou à un objet, paradoxalement. Mais ce que je voudrais montrer, c'est que si le virtuel est même dirigé contre deux versions qui ont cours au XXe siècle, deux versions et deux doctrines de conception qui marquent puissamment la philosophie au XXe siècle, dont l'une est antérieure au XXe siècle, c'est que si le virtuel est dirigé contre une version de l'expérience aussi bien critique, d'un côté, une version kantienne, je dirais, de l'expérience, que dirigée contre une conception phénoménologique de l'expérience, puisque le virtuel, on va le voir, déborde aussi bien le point de vue d'un entendement objectivant, hein, qui construit la connaissance, qui construit de l'objectivité, que indépendant également d'une conscience constituante, à la manière phénoménologique, dont il a été question ce matin. Pour autant, le virtuel ne tombe pas en dehors de l'expérience. Le virtuel chez Deleuze permet de rejeter ces deux versions de l'expérience, mais sans pour autant tomber en dehors de l'expérience, et bien plutôt d'ailleurs, il exige de fonder un nouvel empirisme, que Deleuze appelle un empirisme transcendantal. Alors, une expression que j'essaierai d'expliquer, et dans le cadre de laquelle le concept du virtuel a une place très forte. Je procéderai en trois temps. J'essaierai d'abord d'élucider ce concept de virtuel en le rapportant à son corrélat chez Deleuze, qui est le concept d'actuel, et en le rapportant à ce concept également fondamental dans ce couple de concepts de l'actualisation, donc virtuel actuel et actualisation d'un côté. Dans un deuxième temps, j'en reviendrai à un concept clé pour comprendre la différence entre le virtuel et l'actuel, qui est le concept de différence. Et enfin, je répondrai à la question que je posais à l'instant, à savoir quel est ce nouveau type d'empirisme qui se trouve fondé à la faveur de la promotion philosophique de ce concept de virtuel, en montrant que l'art, enfin, l'esthétique, ou l'art de manière plus positive et plus directe, a pour Deleuze le privilège de, justement, de présenter le virtuel, de nous donner le virtuel, de nous donner ce qui, pourtant, d'une certaine manière, apparaît comme jamais donné, en tout cas jamais donné dans l'expérience ordinaire. Donc, en ce sens, l'art a ici une vocation et une fonction tout à fait singulière et privilégiée, sur laquelle Deleuze insiste dès la première période de sa pensée, mais également et surtout dans le dernier moment de sa pensée. Et j'insisterai sur un exemple particulier qui est celui du livre qu'il écrit sur Francis Bacon, Logique de la sensation. Le concept de virtuel est donc inséparable, je le disais, de la thèse selon laquelle le virtuel est réel. S'il y a bien là une thèse, c'est parce qu'il n'est pas évident du tout, que le virtuel désigne une dimension qui appartienne de plein droit à la réalité. C'est ce qui apparaît clairement si on accepte de partir de ce que j'appellerais un concept vulgaire du virtuel. Un concept vulgaire, je l'emploie en un sens non péjoratif, au sens où Heidegger parle de conception vulgaire du temps, hein, quant à la manière que nous avons spontanément de nous rapporter au temps comme une suite d'instants chronologiquement ordonnés. Après, il y aurait une temporalité authentique, hein, qui est celle du Dasein, chez Heidegger. On pourrait partir, d'abord, d'un concept vulgaire virtuel. On l'a fait à quelques reprises ce matin déjà. Et on s'aperçoit que, quel que soit parmi les plus courants, hein, le sens que l'on donne à ce terme de virtuel, nous sommes chaque fois renvoyés à la pure puissance, opposée à ce qui est en acte, pour reprendre une distinction qui a une longue histoire. Nous sommes renvoyés donc à chaque fois à la pure puissance, à la simple possibilité, voire à la simulation, on l'a vu ce matin, ou encore à l'illusion. Donc, en ce sens vulgaire, donc, le concept de virtuel paraît ne caractériser que ce qui possède ce qu'on pourrait appeler une demi-existence. Ni l'être plein, tangible, dont la présence est irrécusable, hein, fondée sur la perception, hein, ce gobelet, ce stylo, cette table, pas non plus le non-être, le néant, l'impossible ou l'inexistant. Une demi-existence. À partir de cet état de demi-existence, le virtuel semble osciller entre deux limites. D'un côté, il paraît renvoyer à des états ou à des étangs, en particulier, on l'a vu ce matin, des images qui sont quelque chose, néanmoins. Il renvoie d'un côté à des états ou des étangs spécifiques, ceux d'une réalité simulée, construite, distincte de ce que la phénoménologie appelle la donation en personne, la donation en chair et en os des choses. De l'autre, le virtuel paraît au contraire border notre expérience, border largement notre expérience actuelle à chaque moment, en l'entourant d'un halo, un halo gigantesque. Ce que nous percevons et ce que nous pensons à chaque instant se produit sur, au fond, une frange extrêmement fine, extrêmement mince, qui se découpe sur une immensité de choses, de pensées, qui ne sont justement ni réelles ni inexistantes, c'est-à-dire tout un ensemble qui ne tombe pas sous notre conscience actuelle, soit parce que notre conscience actuelle n'y pense pas, les souvenirs que nous avons en nous, soit parce que notre conscience actuelle ne le perçoit pas. Nous sommes toujours pris, notre expérience actuelle, on pourrait dire qu'elle est prise entre deux inconscients qui constituent une grande part de notre expérience, qui est toujours à l'horizon de notre expérience, et qui n'est pas toujours sous notre conscience actuelle. Nous sommes pris entre deux inconscients, un inconscient subjectif qui est fait par la totalité des souvenirs ou par la totalité psychique de nos souvenirs et de nos idées. Et nous ne nous servons que de quelques idées, celles qui nous sont utiles pour l'action présente. Et puis, un deuxième inconscient qu'on pourrait appeler un inconscient objectif, et qui est l'ensemble des choses qui sont au-delà de cette salle, au-delà de cette rue, etc., à l'infini. Donc je sais qu'elles sont là si je vais m'assurer qu'elles y sont, mais dont je n'ai pas actuellement conscience. Et bien, c'est peut-être à partir de là, à partir de cette première mise en place approximative, que peut apparaître l'envergure et la radicalité de la conception deleuzienne du virtuel. Pourquoi ? Parce que ce que Deleuze propose de faire, c'est de donner au virtuel une portée qui n'est pas simplement régionale, hein, le virtuel cantonné à quelques êtres ou à quelques expériences rares de simulation, d'illusion, de construction d'images. Donc des données virtuelles n'ont pas une portée simplement régionale, ni même seulement générale, au sens de l'expérience psychologique, encore une fois, l'inconscient objectif et psychique et subjectif entre lesquels mon expérience est toujours prise. Donc une portée ni simplement régionale, ni même seulement générale, mais bien plutôt intégrale. Le virtuel ne se laisse pas circonscrire pour Deleuze, il n'est pas ici ou là, il prend tout, il gagne tout ce qui est, tout ce qui existe, tout l'être, d'une certaine manière, il est l'être lui-même. Pour autant, on va voir que tout n'est pas virtuel non plus, mais le virtuel est à l'horizon de tout ce qui est, de tout ce qui existe. Et c'est ce qu'on peut faire apparaître très simplement dans un passage très qui apparaît très tôt dans l'œuvre de Deleuze, hein, un des tout premiers textes de Deleuze consacré à Bergson en 1956, intitulé Bergson 1859-1941, qui est en fait la notice pour une encyclopédie de philosophes célèbres dirigée par Merleau-Ponty, et pour laquelle Deleuze fournit une contribution. Et cet article est repris dans L'île déserte, hein, L'île déserte et autres textes, Gilles Deleuze, page 39, où Deleuze écrit ceci: le virtuel n'en est pas moins un mode d'être. Bien plus, il est d'une certaine façon l'être lui-même, ce dans quoi toute réalité se distingue et se comprend, prend racine. On le voit à la lecture de ce passage très bref, le virtuel n'a pas pour Deleuze, loin s'en faut, n'a donc rien d'une réalité seconde, ni simulée. Il est, bien au contraire, ce qui fait qu'il y a du réel. Toute chose, pour Deleuze, doit sa réalité, de sa participation à cette dimension virtuelle, qu'on pourrait qualifier d'ailleurs plutôt de souterraine ou d'enfouie, hein, plutôt que antérieure ou première ou primitive, au sens d'une origine, ici on a plutôt quelque chose qui est d'enfoui ou de souterrain. Et au passage, ce geste qui consiste à penser le virtuel, hein, comme un élément, alors vraiment un élément au sens où Bachelard parle des éléments, hein, le feu, l'air, l'eau, la terre, ce geste qui consiste à penser le virtuel comme un élément, hein, dans la citation que je donnais à l'instant, il est ce dans quoi les choses prennent racine, ce geste-là ne serait pas d'ailleurs sans affinité avec le concept de chair que Merleau-Ponty élabore dans les mêmes années. Lorsqu'il étend ce concept de chair à la chair du corps, il l'étend à la chair du monde, et qui est ce à partir de quoi toute chose est perçue ou même pensée. Il y a quelque chose de remarquable dans cette conjonction historique, dans cette circonstance, qui fait qu'on a quelque chose qui me semble vraiment de la même radicalité dans la redistribution ontologique qui se trouve engagée. Mais pourquoi en venir au virtuel? Pourquoi en revenir au virtuel? Pour reprendre le titre de ce colloque, et ce retour d'ailleurs pourrait très bien être justement un enfouissement, hein, une recherche souterraine, l'accès à une profondeur en fait, hein, qui est toujours présente et coexistante. Pourquoi en venir donc à cette partie de l'objet, de tout objet, de toute réalité qu'il s'agirait d'exhumer ou de rappeler, ou à laquelle il s'agirait d'en appeler. Alors, quelle nécessité, au fond, pour ce concept de virtuel? Et il faut comprendre cette nécessité, il faut poser cette question, parce que ce concept pourrait paraître arbitraire, au fond, pourquoi ne pas s'en passer? Ou lui paraîtrait relever, à quelqu'un qui découvrirait les textes de Deleuze, d'ailleurs, lui paraîtrait relever d'une sophistication ontologique inutile. Bon, pourquoi poser du virtuel? Alors, il me semble que pour expliquer cette nécessité, on pourrait invoquer Deleuze. Justement, c'est par hasard, dégage ce concept à partir de Bergson. Cela tient à une attitude de pensée qui est bergsonienne, qui est fondée sur une thèse très simple, qui est, enfin, très simple, dans son énoncé, pas du tout dans ses conséquences ni dans sa radicalité, mais le réel, hein, la réalité, n'est pas d'emblée faite, constituée de choses ou d'objets. Elle n'est pas faite de pièces et de morceaux. Le réel, pour Bergson, est solidification, hein, immobilisation, cristallisation. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il est solidification, il est solidification de quelque chose qui n'est pas solide, puisque la solidification prend appui sur quelque chose de fluide. Donc s'il est immobilisation, il part donc de quelque chose de mobile. S'il est cristallisation, c'est qu'il part de quelque chose de souple. Si bien que, à s'en tenir aux formes et aux individus que nous avons sous les yeux, à travers, par exemple, tout ce que nous pouvons percevoir, et que nous donne la perception et le langage ordinaire, nous n'avons pas affaire au réel lui-même, mais à une partie seulement du réel, à la partie qui est toute faite, à la partie qui est solidifié, immobilisé, cristallisé. Et ainsi, au lieu, offrant à partir de ce constat, la décision de Deleuzienne, hein, qui reconduit, qui continue Bergson sur ce point-là, c'est de considérer le réel non pas tout fait, mais en train de se faire. Hein, partir donc d'une donnée qui est fondamentalement temporelle, de considérer les choses dans la réalité dans le temps. Et ainsi, au lieu de partir d'entités préexistantes ou d'individus déjà formés, il va s'agir de plonger, puisque c'est encore une fois là, à travers ce verbe qu'on va trouver le virtuel, il va s'agir de plonger dans les mouvements de constitution réels, d'où les choses sortent, partent. Telle est justement la dimension du virtuel, et tel est le sens que l'on peut donner à ce retour au virtuel. Le virtuel est donc ce qui va nous permettre de penser non pas l'être en puissance, mais bien quelque chose comme une puissance de l'être. À savoir quelque chose qui est de l'ordre de la productivité, de la fécondité de l'être. Cette puissance créatrice du virtuel s'effectue sur un mode bien spécifique que Deleuze appelle l'actualisation. Ce processus par lequel justement les choses se cristallisent, se figent, se forment, prennent forme, c'est l'actualisation. Pourquoi l'actualisation renvoie-t-elle à un véritable processus de création? C'est ça qu'il faut comprendre. En quoi est-ce qu'il y a quelque chose ici qui engage une puissance de l'être? Justement, ce sens que l'actualisation se distingue radicalement de ce que Deleuze appelle la réalisation. Ou plutôt, il faut distinguer entre d'un côté la réalisation du possible et de l'autre l'actualisation du virtuel. Le mouvement du réel, le mouvement de la réalité, les mouvements réels sont toujours du côté de l'actualisation du virtuel. Pour Deleuze, la réalisation du possible nous laisse à l'extérieur du processus de constitution réelle des choses. Il ne consiste qu'en une fausse genèse ou une fausse explication des choses. Pourquoi ? Parce que le possible, loin d'expliquer le réel, suppose le réel. Il suppose le réel déjà constitué. Cette thèse critique, Deleuze la tient de la fameuse analyse que Bergson fait des rapports entre le possible et le réel dans son essai sur le possible et le réel qui paraît dans la pensée du mouvement en 1934 et dont la thèse fondamentale peut se résumer ainsi: ce n'est pas le possible qui devient réel, mais le réel qui devient possible. Il faut d'abord que les choses soient là pour en dégager une possibilité. Il y a une illusion de l'intelligence qui fait que quand une chose apparaît pour la première fois, aussitôt nous en créons une sorte de double, de fantôme que nous rétrojetons en arrière en fonction d'un. Bergson prend l'image de la tache d'huile, c'est-à-dire quand une chose apparaît, quand elle surgit, quand elle vient dans l'existence, elle fait tache d'huile sur le passé, si bien qu'elle a l'air d'avoir été possible de toute éternité, alors que l'on oublie qu'elle est apparue une fois. Et donc le possible, il vient de là, en fait. C'est une production psychique qui vient après coup, toujours après le réel. C'est parce que l'Everest a été escaladé que l'Everest est escaladable. C'est le fait, c'est l'action qui introduit du possible dans le réel. Donc, si le possible doit être conçu à l'image du réel, conformément à cette thèse, cela veut dire qu'il vient après le réel, qu'il est une réalité seconde, dérivée. Et que cette production psychique, intellectuelle, spontanée, alimente une fausse genèse, nous conduit à produire une fausse explication des choses. Le tort de cette fausse genèse, c'est qu'en se jouant dans la représentation, complètement intellectuelle en fait, complètement idéaliste au sens fort, le tort de cette genèse, c'est qu'en se jouant dans la représentation, non seulement elle ne dit rien du réel, mais elle rend l'existence superflue, inutile, pure doublure du semblable par le semblable. C'est ce que dit, c'est la formule que Deleuze prend pour caractériser le possible. Pure doublure du semblable par le semblable. Donc il y a un effet de redondance du possible par le réel qui devient se superposer à lui. Au contraire, l'actualisation et son corrélat, le virtuel, restitue à l'existence sa nécessité. Et au réel, on pourrait dire sa griffe, sa morsure, son effectivité. C'est dans ce dispositif seulement que l'on accède à la genèse réelle cette fois-ci, hein. Non pas la genèse purement intellectuelle et fausse, mais la genèse réelle ou vraie. Pourquoi ? Parce que le possible, c'est son mécanisme, évacue de manière constitutive les conditions de sa genèse. On oublie que, on pense que les choses ont été possibles de toute éternité une fois qu'elles sont apparues, et on oublie que c'est une illusion. En cela, on ne peut pas s'en défaire. Le possible dissout la réalité du réel, on pourrait dire dans une image du réel, sans qu'on puisse sortir de ce cercle entre l'image et la réalité qui se renvoient l'une à l'autre. de manière abstraite et stérile. La réalité devient indifférente ou sans importance. Tout change dans le processus d'actualisation, au regard duquel la règle n'est plus, comme dans le jeu de l'image et du réel, celui de la ressemblance, hein, un impossible qui est fait à la ressemblance de la chose. Deleuze parle de décalque, hein, le possible c'est toujours quelque chose qui est décalqué sur, décalqué sur le réel, qui est prélevé sur le réel, mais il faut le réel. Donc c'est bien que le réel est premier par rapport au possible, qui n'est jamais que second, et qui ne pourra jamais expliquer le réel, puisqu'il est, il vient du réel. Donc, il demande, il est plutôt ce qu'il faut expliquer d'ailleurs, comment se fait-il que notre intelligence produise cette illusion. Dans le processus d'actualisation, tout change. Pourquoi ? Parce que ce processus d'actualisation ne se joue pas dans la représentation, dans le concept, dans la pensée, mais dans les choses. Dans ce processus d'actualisation, la règle n'est plus la ressemblance, mais la différence. Ce que Deleuze formule ainsi, c'est dans Différence et répétition, page 273, hein, Différence et répétition, jamais les termes actuels ne ressemblent à la virtualité qu'ils actualisent. Alors, par exemple, on peut prendre l'exemple de l'œil, de la production par la vie de cet organe qu'est l'œil. Eh bien, un exemple que prend Bergson dans L'évolution créatrice, son grand livre sur la vie, et qui est exemple auquel Deleuze consacre de nombreuses pages dans, à chaque fois qu'il parle de Bergson dans ces années-là, 56-66, et en particulier dans le bergsonisme, son livre synthèse en quelque sorte, qui date de 1966. Eh bien, l'œil est un résultat. Quand on voit un œil, on est dans l'actuel. Dans quelque chose que l'on perçoit dans la cristallisation d'une forme de vie, dans la cristallisation d'une forme de vie dans telle ou telle espèce. Eh bien, l'œil est un résultat, un terme actuel. En réalité, si l'on cherche à en produire la genèse réelle, l'œil n'est pas la réalisation d'une intention de la nature. La nature ne s'est pas prise, ou la vie ne s'est pas prise en associant des molécules ou des morceaux de matière. Alors, en réalité, l'œil doit être conçu comme la solution d'un problème. Il n'est pas réalisation d'un possible préexistant. La preuve en est que l'effort de la vie en vue de faire passer de la lumière dans la matière, ce qui a priori n'est pas possible, a donné lieu, sur des lignes d'espèces divergentes, à des solutions très différentes. C'est-à-dire que la nature a expérimenté. Et donc elle a trouvé des solutions très différentes à un même problème qu'elle s'est posé. S'il y a bien création, ainsi, donc, justement, du problème à la solution, ou du virtuel à l'actuel, il y a bien création, c'est parce que la solution ne préexistait pas dans le problème. Sinon, la vie aurait fait partout pareil. S'il n'y avait eu qu'à appliquer une possibilité abstraite à des cas concrets, instanciés dans la matière. Et surtout, donc, la solution ne ressemble pas aux conditions du problème. On le voit, puisqu'il y a une diversité de types d'œil très différents dans la nature. On voit donc que le processus propre au virtuel ne consiste en rien ici à conquérir quelque chose qui serait une pleine réalité, hein, qui lui ferait défaut. Il est pleinement réel, il a la réalité d'un problème, mais si le virtuel doit être distingué de quelque chose, ce n'est pas du réel, mais véritablement, on le voit ici, de l'actuel, auquel il donne lieu. Alors, pour préciser justement un peu plus, et approfondir et donner des exemples, hein, de cette plus nombreux, hein, qui vont être plus éclairants sur cette caractérisation des rapports entre l'actuel et le virtuel, non pas entre le réel et le virtuel, on verra que c'est cette distinction-là qu'il faut maintenir chez Deleuze. Eh bien, Deleuze passe par le concept de différence, hein, de différence. Justement, le virtuel et l'actuel sont pour Deleuze comme deux modes de la différence que Deleuze désigne au moyen d'un artifice typographique. Le virtuel renvoie à un niveau de réalité qui est, dit-il, différencié, et il écrit différencié avec un T à la fin. L'actuel renvoie à un niveau de réalité qui est, lui, différencié avec un C. Différencié à la fin avec un T, ou différencié avec un C. Différencié renvoie au virtuel, et différencié avec un C renvoie à l'actuel. Alors je vais donner des exemples, mais immédiatement, il faut peut-être faire un détour rapide par un auteur auquel Simondon articule, me semble-t-il, ici, son analyse, non plus à Bergson, justement, mais il reprend une analyse à quelqu'un qu'il admire beaucoup, qui est Gilbert Simondon, un grand auteur, lui aussi contemporain de Deleuze, dont tout l'effort général hein, sur les travaux sur l'individuation, sur l'individu, consiste à contester le postulat de toute la métaphysique que l'être, c'est l'être individué, que l'être individué est la seule réalité qu'il faut expliquer, que lui seul a une consistance ontologique. Or, il n'en est rien pour Simondon, il y a du non-individué, qui pour autant n'est pas sans réalité, bien au contraire. Et c'est ce qui conduit Simondon à scinder, à partager l'être en deux niveaux de réalité. Un niveau de réalité individué et un niveau de réalité qu'il appelle pré-individuel. Donc voilà, il y a de l'être individué, mais il y a aussi de l'être pré-individuel. C'est dans le prolongement de ce geste d'abord que je mets en place hein, que ici Deleuze s'inscrit. Le pré-individuel, renvoyant ici donc à cette charge, à ce potentiel qu'un individu trouve dans la nature pour constituer son milieu. Alors, c'est le cas par exemple pour un être vivant. Et la partie individuée, l'organisme lui-même, n'est qu'une partie hein, de ce qu'on peut appeler l'individu total, l'individu global ou intégral. Un individu est toujours en relation, relié à un milieu dans lequel il prélève les conditions, les circonstances hein, de son existence. Donc il y a ici une relation fondamentale entre ces deux niveaux. Ce que Deleuze va expliquer, c'est que un tout, un ensemble, peut très bien être différencié avec un T, c'est-à-dire il peut comporter des singularités remarquables, il peut être parfaitement réel, sans être déjà fixé dans une forme définie, sans être fixé dans la forme d'un individu actuel. Et lorsque cette différenciation, donc virtuelle avec un T, s'actualise, elle se différencie avec un C, c'est-à-dire qu'elle s'individue, et là on passe du virtuel à l'actuel. Alors pour illustrer ce schéma, hein, il faut simplement retenir les grandes lignes pour après le faire correspondre à quelques exemples pour bien comprendre de quoi il s'agit, qui n'est pas si compliqué que ça, il me semble. Hein. La mise en place peut l'être, hein, mais simplement il faut bien faire schéma virtuel égale différenciation avec un T et actuel. Différenciation avec un C. Donc pour illustrer cette dualité entre différenciation avec un T et différenciation avec un C, Deleuze s'appuie sur un exemple extrêmement détaillé sur lequel il s'attarde, emprunté à l'embryologie, en théorie de l'embryon, et en particulier aux travaux, il y a Vialton qui est un embryologiste sur lequel un biologiste sur lequel il s'appuie plus spécifiquement dans une section de différence et répétition très importante qui traite de ce que l'on appelle la cinématique de l'œuf. La cinématique de l'œuf, qu'est-ce que c'est ? C'est l'étude des dynamismes qui sont impliqués dans le développement de l'embryon, dans les différentes phases par lesquelles il passe. C'est l'étude des différents mouvements par lesquels l'individu embryon va progressivement se développer. Alors justement, si on s'intéresse à cette... Si Deleuze s'intéresse à l'embryologie, c'est pour exhiber justement ce point fondamental. Qu'il existe des mouvements morphogénétiques qui se jouent avant toute actualisation, se jouent en deçà ou en dessous de toute spécification, en dessous de toute organisation. C'est-à-dire qu'en gros, dans l'œuf, l'embryon passe par toutes sortes de phases pendant lesquelles on est incapable de dire ce qui va sortir de cet embryon, cet œuf, des mouvements aberrants, des torsions, des mouvements imperceptibles dans des conditions très, très techniques, bien sûr scientifiquement établies, de glissement, étirement, qui s'effectuent au-delà de ce qui est viable ou de ce qui est supportable par l'individu adulte. Eh bien, justement, on est ici dans une phase de... La phase de différenciation, on est ici dans les mouvements du virtuel. On est avant la phase d'actualisation de l'individu formé ensuite, hein, qui va donner lieu à ce que l'être adulte, avec un individu adulte. Eh bien, c'est dans ce milieu, voilà, ce que Deleuze montre à travers cet exemple, c'est dans ce milieu qui est parfaitement différencié avec un T, c'est-à-dire qu'il se passe des choses, il y a des mouvements très complexes, il y a des déplacements absolument extraordinaires qui se jouent. Hein. Deleuze incite beaucoup sur l'exemple de la tortue, qui connaît des déplacements de vertèbres absolument extraordinaires pendant ces phases de, et qu'on ignore complètement, hein, qui passent évidemment complètement inaperçues lorsque l'individu adulte est là. On n'a pas idée par ce qu'il a fallu, justement en termes d'actualisation, par quelle phase il a fallu passer, et surtout par quelle. On n'a pas conscience, hein, de ces mouvements réels qui sont dans le réel et qui rendent possible, hein, le développement complet de l'individu. Donc c'est dans ce milieu différencié, virtuel, que l'actualisation s'effectue. On pourrait multiplier les exemples, et Deleuze le fait, hein, prendre l'exemple géographique, un exemple d'une île ou d'un littoral, d'une côte, d'une montagne, pour prendre des exemples géographiques ou tectoniques. Il n'y a pas là à chaque fois des concepts ou des essences, des possibilités qui trouveraient une sorte d'exemplification, d'instanciation dans la réalité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre ce que c'est qu'une île, ce que c'est qu'un littoral, tant qu'on en reste simplement au stade de la représentation, puisqu'on reste, pour Deleuze, parfaitement dans l'abstrait, pour rendre compte à chaque fois de l'individu côte, l'individu colline, l'individu montagne, l'individu littoral, etc. Il faut se reporter justement à ces dynamismes spatio-temporels extrêmement subtils qui agissent sous la représentation, qui agissent sous le concept, dans son dos en quelque sorte, mais dans la réalité justement. Et il faut se rapporter aux mouvements tectoniques eux-mêmes qui renvoient à des mouvements absolument invraisemblables, qui impliquent des échelles temporelles sur des millénaires, avec des mouvements de solidification de matière fluide, etc. Donc il y a tous ces ensembles-là. On pourrait multiplier les exemples ici pour montrer à chaque fois que sous l'actuel, sous ce qu'on perçoit, la genèse réelle doit nous forcer à repartir de ce. Alors, ce qui est intéressant, c'est, je vais y venir, hein, c'est que ces deux plans ne se succèdent pas, ils coexistent. Ils coexistent. Ça, c'est fondamental, mais au fond, on pourrait multiplier les exemples, et dans la littérature, on en a une quantité, parce que les expériments. Deleuze comprend la littérature non pas sur le mode de la fiction, mais de l'expérimentation. Et on pourrait montrer comment, dans la métamorphose de Kafka, hein, ce que Kafka montre dans l'exemple de Grégoire Samsa, qui se transforme donc en cafard, tous les exemples, tous les efforts qu'il fait pour soulever pour déplacer un meuble, tout ça. On pourrait voir là des expérimentations d'allure de vie complètement différentes qui nous montreraient comment, au fond, ce dont on n'a pas conscience actuellement, ce dont on n'a pas conscience dans l'expérience ordinaire, c'est que l'efficacité de nos gestes, de nos comportements, est toujours conquise à la faveur de l'adoption d'une certaine vitesse d'exécution, en deçà de laquelle, si vous voulez, plus on descend, en deçà de laquelle, eh bien, tous nos actes deviennent parfaitement inutiles. Je crois que c'est quelque chose qui est dans cette expérimentation. Voilà. Et on reste toujours, évidemment, au niveau de l'expérience ordinaire, au niveau de l'actuel. Hein, et la littérature, ou toujours dans certaines conditions techniques sophistiquées, on voit la science aussi, on a toujours accès aux conditions d'expérience réelle qui nous imposent, nous exigent de nous que nous nous reportions à ces mouvements qui agissent sous la représentation et qui n'ont rien à voir avec le possible. Il me reste à peu près
10 minutes. Oui, largement.
Une telle analyse n'est pas sans équivoque. Elle s'expose immédiatement à une interprétation qu'il faudrait, me semble-t-il, récuser immédiatement, selon laquelle le virtuel ne serait qu'un moment ou une étape antérieure destinée à être dépassée dans le processus d'actualisation. Un peu à la manière hegelienne où l'actualisation serait la vérité de l'actuel, la finalité, au fond. Il y aurait quelque chose ici qui serait de cet ordre-là, d'une succession nécessaire. En d'autres termes, le virtuel serait, au fond, rimerait avec originel. Quelque chose d'originel. La plante serait la vérité de la graine, etc. Mais la graine en attente de devenir une plante, ce qui évidemment contrarie complètement le propos de Deleuze, qui vient de maintenir une différence ou un écart et une création, et véritablement quelque chose d'imprévisible, d'imprévu entre le virtuel et l'originel. Et entre le virtuel et le réel. En réalité, il y a ici une difficulté qui ne tient pas seulement au concept de virtuel, mais dans la pensée de Deleuze elle-même, mais qui est une difficulté plus large, qui consiste à concilier une doctrine de la création avec une doctrine du temps non chronologique. C'est-à-dire que pour Deleuze, le temps n'est pas succession chronologique, hein, il est coexistence, hein, je vais y venir. Car la thèse deleuzienne consiste bien à soutenir que le virtuel, c'est très important, ne disparaît pas une fois l'actualisation achevée, si tant est qu'elle s'achève, ou l'individuation accomplie. Deleuze ne souscrirait pas du tout à la formule de Georges Braque, selon laquelle le tableau est fini, comme l'artiste qui peint, le tableau est fini quand il a effacé l'idée. Donc Deleuze, il faut bien comprendre que le schéma actuel virtuel ne peut pas se concilier avec une telle affirmation. Pour Deleuze, l'actuel et le virtuel ne se succèdent pas, ils coexistent. Et avec cette notion de coexistence, on touche à un point majeur de la conception deleuzienne du virtuel, et qui est peut-être même son point de départ. Et celui-ci se trouve chez Bergson, là encore, plus précisément dans le concept original que Bergson développe de mémoire. Alors j'essaie de passer vite, mais peut-être qu'on pourra y revenir dans la discussion, mais c'est suffisamment important pour que je m'y arrête. Néanmoins, Bergson fait de la mémoire tout autre chose que la faculté de se souvenir. Il fait de se souvenir ou de retenir le passé, quelque chose qui serait de l'ordre d'une faculté d'enregistrement du passé. La mémoire, pour lui, ne relève pas seulement de la psychologie, des facultés, mais de l'ontologie. Car ce que Bergson appelle mémoire, c'est ce qu'il appelle aussi durée. C'est la capacité que le temps a à chaque instant de s'auto-conserver. Enfin, au lieu de s'auto-dissoudre dans son propre écoulement, hein, le temps résiste, le temps se conserve sous la forme d'une conscience. Mais finalement, c'est le passé lui-même qui se conserve. Il constitue du coup une sorte d'élément ontologique. Voilà, on a peut-être ici notre modèle du virtuel, de l'actualisation, dans lequel nous pouvons nous souvenir. Voilà en quoi cette mémoire, justement, elle est ce milieu virtuel qui rend possible toutes les actualisations possibles de la mémoire. Le passé, c'est ce dans quoi nous nous replaçons pour nous souvenir. Il y a quelque chose qui est de l'ordre d'un saut. On ne retombe pas en arrière, il n'y a pas quelque chose qui serait une inversion, une régression, il y a plutôt un saut dans un plan de conscience, d'un plan d'existence vers lequel dans lequel nous sautons pour pouvoir nous rappeler quelque chose. C'est ici que l'on peut comprendre en quoi le virtuel n'est pas une étape ou un moment, mais une doublure de l'expérience dans laquelle se jouent toutes les actualisations possibles. Car ainsi comprise, la mémoire ne consiste pas du tout dans une régression du passé vers le présent, hein, mais véritablement dans un saut, dans un plan qui coexiste toujours avec le présent. Pour caractériser ce mode d'être du passé, Deleuze reprend un terme important, qui est celui de survivance. Le passé survit à lui-même. La durée, elle est elle-même cette survivance, on pourrait dire cette insistance. Le fait que, on pourrait d'ailleurs distinguer ici l'actuel qui existe et le virtuel qui est toujours un mode d'être qui est sur le mode de l'insistance. On pourrait presque dire de la hantise. Le virtuel, c'est ce qui hante le réel, c'est ce qui est là, mais sur un autre plan, sur un autre niveau, hein, ce que j'ai appelé une doublure. En tout cas, il n'existe pas, le virtuel, hein, sur le mode d'un objet ou d'une chose, mais néanmoins, il ne marque pas non plus l'extinction de toute expérience. Il faut résister à la tentation qui serait, à mon avis, un contresens, hein, de vouloir polariser cette expérience sur un donné, sur un objet ou sur une donnée immédiate, hein, comme si le virtuel était une sorte d'arrière-monde ou de quelque chose qu'il faudrait chercher derrière l'apparence ou derrière le phénomène. Ce serait confondre le virtuel avec l'actuel, justement. C'est-à-dire qu'il faut comprendre de quelle manière spécifique le virtuel se donne, hein, qui n'est pas la même que l'actuel, qui n'est pas la même que la perception qui rencontre quelque chose de donné. Alors là, je fais référence ici aux travaux de François Zourabichvili, un grand commentateur de Gilles Deleuze, qui est l'auteur d'un vocabulaire de Deleuze très, très utile. Et Zourabichvili a parfaitement raison, page 89 de ce vocabulaire, hein, vocabulaire de Deleuze. Il a parfaitement raison de dire que le virtuel n'est pas donné, que seul l'actuel est donné. Mais il n'est peut-être pas possible d'aller jusqu'à dire avec lui que le virtuel n'est ni donné ni donnable. C'est-à-dire que, je lis la phrase ici qui me gêne un peu dans la part de Zourabichvili sur ce point-là, il explique, il dit, mais que le virtuel ne soit pas donné ne veut pas dire qu'il le soit ailleurs ou pour un autre. Il explique qu'en fait, si le virtuel ne nous est pas donné pour nous, ça ne veut pas dire que pour un dieu, par exemple, il serait donné ou... Faire du virtuel quelque chose qui serait absolument hors d'atteinte, inaccessible, ce serait absolument incompatible avec tout le projet de Deleuze qui est de fonder ce qu'il appelle un empirisme transcendantal. C'est-à-dire que c'est un empirisme, c'est-à-dire une philosophie qui est fondée sur l'idée qu'on peut découvrir les conditions de l'expérience, et que ces conditions de l'expérience supposent elles-mêmes une expérience, contrairement à ce qui se passe chez Kant. Les conditions d'expérience, elles sont rabattues sur l'a priori. Ce qu'il faudrait préciser, par contre, si on veut comprendre la thèse de Jorabishvili, c'est que le virtuel n'est pas donnable, certes, dans les conditions de l'expérience ordinaire, c'est-à-dire dans l'usage simplement empirique de nos facultés, seul l'actuel est donné dans de telles conditions. En revanche, il peut être, sinon donné, à la manière d'un objet, du moins il peut être vécu. Il peut être vécu dans des conditions qui sont limites. Je reprends l'exemple de la cinématique de l'œuf. Deleuze explique que ces dynamismes aberrants par lesquels l'embryon passe, ils sont bien vécus par l'embryon. Ils ne peuvent être que vécus, même s'ils sont comme tels insupportables. Simplement, il ne s'agit pas ici, bien sûr, d'une expérience qui peut être réeffectuée ou donnée en première personne. Mais qu'il y a une expérience non pas possible, mais réelle, au plus proche du virtuel, c'est ce qui empêche de faire du virtuel quelque chose qui sera un retour à compte, qui serait une chose en soi. Donc, il faut bien qu'il y ait quand même une expérience derrière de ce virtuel. En revanche, bien sûr, cette expérience n'est pas donnée dans des états empiriques immédiatement ou psychologiques immédiatement accessibles. Mais toujours dans des conditions particulières, et là, c'est là que, à mon sens, intervient le privilège de l'art. C'est que l'art a ce privilège de nous donner accès à quelque chose qui est de l'ordre du... qui est le virtuel. Alors, je m'appuie simplement, je termine pour conclure, sur l'exemple que j'ai annoncé tout à l'heure que j'empruntais à la peinture de Francis Bacon. Bon, j'en ai donné un exemple, d'une certaine manière, emprunté à Kafka, tout à l'heure, à la métamorphose. Justement, que montre Deleuze dans son livre consacré à Francis Bacon ? Eh bien, justement, il cherche à rendre compte du travail de Bacon, et du travail du peintre et de la peinture, justement, en invoquant le virtuel. Et qu'est-ce que cela change de rendre compte de la peinture en passant par le virtuel ? Bien, cela permet de rendre compte du mouvement réel de la peinture. Deleuze consacre cette question, et cette élucidation, cette exploration du virtuel à travers Bacon, à partir du chapitre 11 de son livre Francis Bacon, Logique de la sensation. Justement, le travail du peintre, qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas de remplir une surface blanche qui fonctionnerait comme une surface d'enregistrement ou de reproduction du réel, justement à partir de choses qui seraient possiblement dans la toile. Le peintre, la peinture ne se joue pas dans l'actuel, elle ne se joue pas, c'est-à-dire tout ce qui est perçu, tout ce qui est autour de nous, dans tout ce qui est étalé sous nos yeux, comme modèle possible, encore une fois. Mais il faut plutôt que le peintre s'arrache à tout un ensemble de clichés, de stéréotypes, d'images déjà faites, déjà vues, déjà données, qui insistent, justement, qui résistent, qui sont là autour de lui de manière diffuse, inconsciente, et desquels il doit s'arracher ou s'émanciper pour en dégager un tableau. Et bien, justement, hein, c'est dans cet élément-là, cet élément virtuel, que le peintre, que se joue l'actualisation du tableau. Et on voit bien ici que s'il y a actualisation, c'est parce que ce qui est présenté sur la toile ne nous ressemble pas à ce qui est, donné, qu'il n'y aurait plus qu'à reproduire. Bien au contraire, hein, ce qui est présenté diffère fondamentalement de ce qui est de ce qui apparaît dans la réalité. Je termine juste en montrant que bien plus, hein, c'est que ce que le tableau doit capturer, c'est un tableau mais aussi bien un grand texte, hein, parce que on pourrait multiplier les exemples, un grand film, hein, pour prendre des exemples empruntés à cinéma. Ce que le tableau doit capturer, montrer, hein, ce à quoi il doit donner accès, c'est justement à ce qui n'est pas perceptible dans les conditions de l'expérience ordinaire. Mais il doit montrer justement l'invisible dans les conditions de la perception ordinaire, mais pas l'invisible tout court, hein, c'est pas quelque chose qui n'est jamais donné. Ou l'inaudible, si c'est de la musique par exemple, quelque chose qui n'est pas audible dans les conditions ordinaires de la perception, mais quelque chose que le musicien va rendre audible justement. Et, au fond, c'est rendre audible, visible ou perceptible des forces qui elles-mêmes ne sont pas audibles, ne sont pas perceptibles. Dans l'expérience ordinaire. Des forces invisibles. C'est la fameuse formule que reprend Deleuze pour illustrer ce point, hein, non pas rendre visible, mais rendre visible. C'est-à-dire que la peinture est un dispositif de capture de force. Où il s'agira de, par exemple, pour Cézanne, de peindre la puissance de plissement d'une montagne, ou la puissance de germination d'une pomme, hein, c'est une nature morte. Ou pour Van Gogh, la puissance de la force d'une graine de tournesol, hein, dit Deleuze. De même, alors, comme ça fera justement le lien et le pont avec ce que je disais tout à l'heure de la cinématique de l'œuf, les torsions, hein, que tout le monde connaît, ou, enfin, à en tête hein, les tableaux de Francis Bacon, où on voit ses corps, ses visages torturés, soumis à des torsions, des crispations. Tout cela n'a rien à voir, explique Deleuze, avec une violence de premier degré, qui serait liée à quelque chose de violent, qui serait représenté, qui serait de l'ordre de la représentation. C'est la violence, justement, du virtuel qui affecte ces corps et qui est enregistrée sur la surface peinte. C'est tout un ensemble de forces extérieures, invisibles, de pression, d'aplatissement, d'étirement, qu'on ne voit pas habituellement, et qui s'exercent sur ces corps qui sont manifestés, donc toutes ces forces qui sont manifestées en creux, sur des zones, les fameuses zones balayées ou creusées dans les tableaux de Bacon, où on voit que les forces sont en train de frapper, en fait. Et c'est ça que le tableau doit montrer. Et c'est bien quelque chose ici qui est une certaine manière pour l'art de rendre possible, de nous rendre accessible sous l'actuel, le virtuel qui, habituellement, dans les conditions de la perception ordinaire, n'est pas visible. Donc la force, la puissance de l'art, c'est justement de montrer ces deux plans qui coexistent, mais auxquels nous n'avons jamais accès habituellement. Je conclue tout simplement en disant que, pour faire référence à quelque chose qui a été dit tout à l'heure, qui serait la contribution, il me semble, de Deleuze à cette réflexion sur le virtuel, c'est qu'il n'y a pas, au fond, de passage du virtuel au réel, au sens d'un accomplissement, d'un achèvement, mais il y a plutôt partage du virtuel et de l'actuel au sein du réel. Et l'oubli de ce partage nous expose toujours à la généralité, à l'abstraction ou à l'arbitraire. Inversement, tenir les deux parts du réel, l'actuel et le virtuel, est la tâche exigeante de suivre le mouvement réel de l'expérience, ce que fait l'art et ce que fait aussi la philosophie.
Merci beaucoup Arnaud pour cet effort, je crois, très méritoire pour les problèmes de gorge, mais tu t'en es très bien sorti. Alors, je vous cède la parole s'il y a des questions. Donc, là, peut-être les philosophes qui vont prendre en main le débat, ou pas forcément, je ne sais pas. Il y a des questions? Oui. Aude, ici.
Oui, donc, Aude Guébien. J'ai une question qui permettra peut-être de faire un petit peu le lien entre les considérations de ce matin sur le numérique et la question numérique et ce concept de virtuel qui est un peu le cœur de ces deux journées. Il me semble assez clair à partir de ce que vous avez présenté qu'on a en fait quand même quelque chose qui est en réalité très éloigné de ce qu'on entend aujourd'hui communément de manière vulgaire, de manière vraiment d'un langage courant quand on parle du virtuel pour désigner les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Pour plein de raisons, évidemment, mais surtout pour une raison évidente, qui est que, comme vous l'avez dit, le virtuel n'est finalement jamais donné, ou en tout cas, s'il est donnable, si on peut y accéder, c'est toujours à partir d'expériences limites, ou alors à partir d'un terrain privilégié qui serait celui de l'art. Or,
c'est aussi une expérience limite, en fait. L'art, c'est aussi une expérience limite.
Voilà. Donc l'art comme expérience limite, alors qu'il y a des gens qu'on baigne littéralement aujourd'hui dans les cultures numériques, mais pas du tout à la façon du virtuel que vous avez décrit, qui est quelque chose de vraiment souterrain, enfui, invisible, etc. Donc, je ne sais pas si...
Est-ce que je peux rebondir sur ta question, parce que je crois que ce sera plus clair de la mettre toute à la suite. Moi, je voulais t'interroger, je pense que ça rejoint un peu donc, la remarque de Aude, sur le rôle de l'artefact dans, justement, ces relations entre... virtuel et actualisation. Dans le travail de l'art, il est clair qu'il y a un travail de l'artefact. En même temps, par rapport à ce que tu as dit, notamment sur la mémoire, évidemment, ça m'intéresse en particulier. C'est peut-être une question qu'auparavant, je pose aussi à Bruno Bachimon, qui prendra la parole tout à l'heure. Je pense que tu as évoqué la mémoire plutôt, bien sûr, comme capacité cognitive. Qu'en est-il de la mémoire quand elle est externalisée, justement, dans des artefacts, hein, dans des aides-mémoires, dans des objets mémoriels, hein. Est-ce que là, finalement, on sort de ce processus de virtualisation? Est-ce qu'on passe à ce moment-là dans la réalisation? Ou est-ce que l'artefact, là aussi, peut encore entrer dans ce schéma du virtuel en tant que force de déplacement, de création, d'innovation. je pense. Oui.
Alors, sur l'artefact, oui, dans la deuxième aspect, je rebondis juste sur artefact, parce qu'il y a, une différence majeure qui me frappe avec, entre Bergson et Deleuze, justement, c'est que pour Deleuze, l'immédiat, ou quelque chose, les mouvements réels, justement, ou les mouvements du réel, ne sont jamais donnés immédiatement. Chez Bergson, il y a quelque chose comme la possibilité d'un contact immédiat de l'artiste ou du philosophe avec le réel. Chez Deleuze, il y a toujours le détour par une médiation. C'est-à-dire qu'au fond, s'il y a un immédiat, il est construit, donc, curieusement. Enfin, ça donne une sorte de monstre philosophique comme ça, mais bon, Deleuze les construit à l'appel, hein, l'empirisme transcendantal, on ne sait pas bien ça. Mais donc, l'artefact a une dimension importante. Il s'agit toujours de construire des protocoles à l'intérieur desquels, justement, il s'agit de rendre visible quelque chose qui ne l'est pas habituellement, que ce soit dans l'art ou dans la... Même dans la science, hein, les dispositifs techniques de la science. Tout ce qui... La science, l'art et la philosophie, ce sont les trois modèles de la pensée, hein, pour Deleuze, qui ont à chaque fois cette vocation de toucher à cette part virtuelle, hein, qui est sur la mémoire virtuelle... Là où il y a une mémoire pour Bergson, c'est-à-dire là où il y a une capacité d'autoconservation, il y a une conscience. Est-ce que dans les dispositifs mémoriels, je ne sais pas ce que Bergson aurait dit, parce qu'on a quand même des dispositifs qui sont matériels, qui sont donc de la matière. Est-ce qu'il y a une capacité d'autoconservation Je ne suis pas compétent sur ces questions-là, mais est-ce qu'on peut parler de l'histoire d'un disque dur, par exemple, ou est-ce qu'un disque dur a rapport à lui-même sur le mode d'une histoire? Est-ce qu'il peut faire son autobiographie? C'est la question que je me pose. C'est-à-dire, est-ce qu'au fond, est-ce qu'on peut parler d'une vie, au sens, pas seulement d'une vie biologique, mais d'une vie au sens existentiel de la... Parce que Bergson, pour Bergson, la rupture, elle serait là. C'est-à-dire que partout, et pour lui, il y a une vie ou il y a une histoire. Il y a une histoire de la vie dans son ensemble. Il reproche justement... Il dit qu'on... Il y a une histoire de la vie qui est l'évolution, en fait, hein, dans l'évolution créatrice. Il y a une histoire de... Partout où il y a un être vivant, il y a une histoire qui s'écrit, dit Bergson. Alors évidemment, avec plus ou moins de mémoire, plus ou moins de conscience, mais ma question, c'est dans le dispositif mémoriel, je ne suis pas compétent, mais est-ce qu'il y a quelque chose comme... Est-ce qu'il y a une vie? Est-ce que mais une vie, encore une fois, au sens... Voilà, ça, il y a peut-être...
C'est dur pour avoir sa propre histoire.
Est-ce que c'est l'histoire que lui attribue son utilisateur ou son,
non.
Ou son diagnostiqueur?
Autonome sans utilisateur.
D'accord.
Ça, absolument. Parce que c'est une vie, c'est autre chose.
Oui. Oui.
D'accord, sa propre histoire.
De même qu'un compte Facebook, on le sait maintenant, peut avoir une histoire. Et même il se présente sous cette forme, je le montrerai demain. Est-ce que pour autant c'est une vie? C'est effectivement une autre question. Mais il y a une autoconservation, et même de plus en plus, sans doute.
Ça dépend de quel système tu installes. Il peut avoir une histoire assez complexe, pas seulement archive de manipulation, mais qui peut aller au-delà de là. Alors, pour le reste, évidemment, ça reste à discuter.
D'accord, bon, ça, c'est intéressant, c'est un point effectivement sur lequel je ne doute pas que Bergson, qui s'intéressait beaucoup aux sciences positives, et se serait intéressé au développement d'un dispositif mémoriel. Donc là je ne suis pas. Bon, c'est.
Il a une mort.
Il a une mort, ouais. C'est une mort.
Est-ce une expérience personnelle?
Il y a un deuil, donc, alors, après. En fait, c'est des morts programmées aussi, c'est des morts, enfin, ce qu'on appelle l'obsolescence, dans le marketing, il y a des...
Pas du tout, c'est une
expérience
qu'on peut tuer, il sera mort.
Oui.
On peut le tuer.
Oui.
On peut le tuer aussi, oui.
Il y a des meurtres.
Ah oui.
Question de Manuel.
Je voulais revenir sur ce que disait Aude, là, parce qu'il me semble que Par rapport à son rappel en introduction de la manière dont Thierry posait les rapports entre virtuel et numérique, même si j'ai montré que je divergeais de l'approche de Pierre Lévy dans ses conclusions, il y a bien un lien fort qu'on peut faire entre ces questions de virtuel au sens de Deleuze et les potentialités que nous offre le numérique. Hein, quand il dit voilà, l'entreprise virtuelle, la relation virtuelle, c'est justement quelque chose qui est fondamentalement problématique, puisqu'on ne sait pas comment elle va se factualiser. Et que ce que j'essayais de développer ce matin, c'est que c'est bien ça. La virtualisation ne dépend pas causalement de la technique numérique, mais le numérique est là pour nous offrir des opportunités de refonder l'entreprise, de refonder les relations. Je te trouve un petit peu catégorique par rapport à... Je pense qu'on peut arriver à faire des... effectivement des liens. Moi, j'aime beaucoup cette idée que, bon, je ne sais pas comment, que la réalité est solidification, cristallisation, et que, on peut faire cohabiter des choses qui sont de l'ordre du potentiel, et des choses qui sont beaucoup plus... Et en fait, moi, ce matin, pour ceux qui n'étaient pas là, mais ce qui m'intéressait, c'était si tu étais là, c'est la notion de virtualisation, à l'inverse de celle de
virtualisation,
de se dire... par rapport à quelque chose qui est de l'ordre
déjà solidifié. Mais c'est ce que fait l'art, au fond, peut-être, c'est de virtualiser l'expérience, au fond. C'est-à-dire que l'art, l'expérience, la pente ordinaire de l'expérience, c'est l'actualisation, justement, dans des choses, dans des objets, dans des personnes, dans qui sont figées dans des identités ou dans des formes, dans des individus définis. Et puis, inversement, donc, l'art va, au contraire, nous conduire vers des états qui sont plus... comme celui de Kafka, va nous faire passer par des états qui sont... des états qui passent en dessous du seuil ordinaire de perception, dans les romans de Virginia Woolf, par exemple, elle va digresser sur une perception qui va la conduire dans des couches profondes de la conscience qui habituellement ne sont absolument pas sous le regard de notre conscience. Il s'agit bien de virtualiser l'expérience, ça, je suis tout à fait d'accord.
Parce que, effectivement, moi, je ne sais pas dans le monde de Deleuze à tout ça correspond à quelque chose, mais du coup, en posant les choses comme ça, l'idée, c'est que finalement, la créative, moi, c'est une banalité du point de vue de l'analyse de la création en psychologie ou autre, mais c'est que on crée toujours à partir de quelque chose qu'on va reproblématiser. Il n'y a pas de création ex nihilo. Si on dit que la création part d'une virtualisation, c'est qu'en fait on part
de quelque chose
de cristallisé.
Il n'y a pas la contestation, effectivement, je suis d'accord. Ça, c'est fondamental. C'est-à-dire que les rapports entre virtuel et actuel, c'est une contestation du schéma de la création ex nihilo, justement. C'est-à-dire qu'il y a toujours, il y a toujours un point de départ. On revient à la limite aussi aux petites perceptions. C'est-à-dire qu'il y a toujours, un point de départ dans des dynamismes spatio-temporels aussi minimes, aussi moléculaires, aussi infimes soient-ils, quelque chose qui s'amorce dans la réalité et dans lesquels prend en consistance progressivement une création. Je suis tout à fait d'accord. Ouais. Mais non, c'est très juste, hein, la virtualisation, c'est ça. Hein. Ce que fait Proust à la recherche du temps perdu, j'ai pas eu le temps d'en parler, mais c'est ça, il dit.
Chez nous, ça rejoint pour les pragmatistes toute la problématique de l'enquête chez Dewey, qui est toujours la noise d'un trouble, d'une situation qui. Et c'est à partir de cet état non conventionnel, non routinier
Mais si on crée, inversement, ça c'est pas du tout c'est pas une banalité, ça va contre l'image que l'on a de la création. On crée pas, parce que tu disais, on crée toujours à partir de quelque chose, mais justement, on crée pas à partir d'un possible. C'est-à-dire, c'est ça. Donc, si ça doit être une création, ça peut être qu'à partir de ces dynamismes spatio-temporels qui sont en eux-mêmes, qui ont un devenir imprévisible, mais pas à partir d'un modèle. Parce qu'il y a, nous, on a quand même ce schéma dans la tête, ce schéma théologique, au fond, où la création, c'est Dieu qui actualise ou réalise une idée dont il dispose déjà. Ou c'est le démiurge dans le Timée de Platon qui fabrique un monde ou un univers à partir d'un modèle. Donc c'est ça. Et ce que Deleuze veut conjurer aussi dans la création, c'est cette image du modèle aussi, et de la peinture comme reproduction ou comme représentation. Et c'est tout son effort dans Francis Bacon de montrer que la peinture n'a rien à voir avec la reproduction ou la représentation, mais dans l'explicitation, l'enregistrement, la capture, c'est-à-dire la capture de force. Enfin, c'est pas des reproductions ou des représentations de forme, mais des captures de force, et de force invisible.
Même dans le domaine du design, enfin, ce que tu dis du modèle, c'est vraiment une discussion passionnante, hein, parce qu'il y a vraiment deux conceptions très différentes de ce que ça peut être un modèle. Quelque chose qui est finalement une représentation synthétique, générative, qui finalement laisse la place à de multiples interprétations.
Un schéma dynamique, quoi.
Voilà, et à mon avis, bien souvent, c'est de ça qu'on passe. C'est ça le vrai modèle, quoi. Hein. Et beaucoup de gens, effectivement, voient le modèle comme étant un décalque plus abstrait de la réalité. Il y a de vraies difficultés.
Marcello Vitali Rossetti.
Marcello Vitali Rossetti. Donc, je vais reprendre le discours de demain matin parce que je vais reparler de Deleuze. Je suis un très mauvais lecteur de Deleuze, un hérétique, dirait Milan. Mais ce que j'ai jamais compris chez Deleuze, c'est en fait ce que c'est que l'actuel. C'est-à-dire que le virtuel, c'est très clair. finalement. C'est-à-dire dans cette idée d'une réalité qui n'est pas quelque chose justement d'unitaire, de bloqué, etc., mais en mouvement, en dynamique, et donc dans la multiplicité, dans la différence, dans la différenciation avec un T, etc. Ça, je comprends bien. Sauf que, et reprenant l'exemple de l'œuf, quand est-ce qu'on a un actuel? Moi, j'ai l'impression que l'actuel soit une abstraction, du coup.
C'est ça que... Quand on... Que l'actuel est une abstraction?
Oui,
exactement. Non, mais finalement, et c'est ça ce que veut dire Deleuze. Il veut dire ce que veut dire Deleuze, c'est que si on raisonne uniquement en termes... L'actuel, c'est simple, c'est tout ce qu'il y a autour de nous, il n'y a que ça. Et l'individu formé, je ne sais pas, une boule, par exemple, ça, c'est un actuel.
Mais justement, mais, là, du coup, si on prend l'exemple de l'homme...
Voilà, mais il existe des états qui sont complètement différenciés, parce qu'en même temps, il n'y a pas rien avant. C'est pour ça qu'il utilise ce terme différencié. Ce n'est pas du chaos, c'est pas n'importe quoi. Il y a des dynamismes très subtils que la cinématique de l'œuf étudie, par lesquels le poussin va passer, par exemple, et il est dans un état qui est complètement indéterminé. Ça va, en plus, ça pourrait donner n'importe quel vertébré, mais pas une poule. Et quand on va arriver on va arriver cette fois-ci à un individu qui est pris dans un genre, dans une espèce, dans un...
Oui, mais justement, c'est ça, selon moi, même si on prend l'exemple de l'homme, un enfant, est-ce qu'un enfant est actuel par rapport à un embryon qui serait virtuel? Si on prend par exemple justement la théorie de l'intrisme de Georges Lapassade, que j'aime bien, qui dit, finalement, et c'était les problèmes d'Aristote aussi, c'est-à-dire, quand est-ce qu'on dit, là c'est actuel? Un enfant n'est pas plus actuel qu'un embryon.
L'adulte non plus, peut-être.
L'adulte, mais justement, Georges Lapassade qui dit qu'il n'y a pas d'adulte, il y a simplement une entrée dans la vie qui continue toute la vie. Parce que...
Oui, mais il y a bien un moment donné où la représentation, où l'entendement arrête le processus. Et bloque.
Justement, mais
alors, il produit du concept, il produit de la connaissance.
C'est une abstraction dans ce sens-là, pas dans le sens mauvais du terme, mais dans le sens d'un travail. De la raison qui, au bout d'un moment, a besoin de se dire « ça, c'est un homme ». Mais il n'y a pas d'homme dans la réalité. Il y a le virtuel.
Exactement. Il y a les devenir. Ce que dit Deleuze, c'est devenir. Devenir enfant, devenir animaux, etc. C'est-à-dire que nous avons en nous un certain nombre de processus ou de dynamismes qui nous traversent et qui sont à chaque fois standardisés, qui sont normalisés aussi par des actions, par des codes sociaux, par des normes aussi, qui sont là pour arrêter la prolifération de ces devenirs qu'on retrouve après dans la... même Deleuze a été très utilisé pour ceux qui font des recherches sur la sexualité ou sur la différence des genres aussi. Voilà.
Une dernière question de Bruno Machine.
Je suis présenté, merci Louise. Donc oui, j'avais une remarque, une question sur ces affaires de virtuel et d'actuel. Dans une certaine manière, vous avez très bien présenté, magnifiquement présenté Deleuze, Bergson, etc. Vous l'avez assez peu questionné. Or, là, on revient à la discussion précédente, elle montrait que l'actuel, c'est la catégorie qui est intenable, en fait, il faut la dépasser. Mais souvent, il y a deux manières de la dépasser. Soit, comme vous venez de faire avec Bergson et Deleuze, de revenir vers le virtuel, et donc un devenir qui n'est jamais achevé. Vous avez cité Simondon, d'ailleurs, pour lui, de la manière Simondon, l'actuel, c'est quand on est mort, c'est-à-dire quand il n'y a plus rien. Sinon, il est toujours dans une situation en progression, d'une certaine manière. Et l'autre manière de dépasser l'actuel, c'est une espèce de suractuel. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que lorsque vous avez cité Deleuze, vous avez cité les théories du vivant, la théorie de la complexité qui était en plein boom à cette époque-là. Simondon, comme vous le savez, était très matiné de thermodynamique. Thermodynamique qu'on retrouve chez Prigogine, qui était lui un grand lecteur de Bergson, etc. Donc, il y avait tout un ensemble de théories qui étaient en œuvre à cette époque-là et qui ont aussi été appréhendées par une version complètement inverse, qui était le mathématicien. Qu'on va retrouver de René Thom, etc., qui était une vision de dire, eh bien, ce devenir, etc., en fait, ce n'est pas du devenir, ce n'est pas l'indéterminé, c'est du surdéterminé par un mathématisme surplombant et qui permet d'expliquer cela. Alors, je me fais un peu l'avocat du diable, mais par rapport à ces phénomènes que vous invoquez, la question qu'on aimerait se poser, c'est comment on serait capable de faire la part entre une super actualité qui serait donnée par un déterminisme mathématique surplombant, et d'une certaine manière, tout est déjà inscrit dans un devenir mathématique qui n'a plus qu'à s'exprimer. Mais en fait, le logo, c'est déjà là. On n'est plus qu'à l'historiciser par rapport à un devenir qui reste indéterminé. Mais évidemment, on arrive toujours trop tard sur ce devenir, si je veux dire, parce que quand on le constate, c'est qu'il y a déjà eu lieu. Et donc, d'une certaine manière, on n'a pas de critères ou de démarcation épistémologique ou que sais-je pour faire la part entre les deux. Et à ma connaissance, quand on parle d'évolution des sens cognitifs, le débat fait encore rage. C'est-à-dire que les mêmes phénomènes sont appréhendés dans des postures tout à fait. qu'il n'y aura pas la montagne si je me gêne, où on va avoir un mathématisme tout à fait triomphant et décomplexé. Donc comment est-ce qu'on pourrait rebondir là-dessus? Et puis, une autre remarque, c'est vrai que vous avez beaucoup insisté sur le visuel actuel, ce qui fait que le potentiel est un petit peu passé à la trappe. Et je vous disais que par rapport à la question de Louise sur l'artefact, je trouve que précisément l'artefact est ce qui permet de faire une médiation de potentialisation entre le virtuel et l'actuel. Et donc c'est pour ça que, d'une certaine manière, il y a des choix, des prédéterminations qui sont réglées par l'artefact comme dispositif de potentialisation et qui permet, d'une certaine manière, de programmer, pour programmer en faisant la saisie entre les deux, le virtuel qui a de devenir totalement indéterminé et d'inscrire des lignes de détermination à travers la structuration de l'artefact qui n'est jamais totalement neutre et ouvert comme peut l'être le virtuel. Et que ce soit le dispositif mémoriel ou tout simplement le dispositif intellectuel, en fait, la pensée s'individue par une structure de potentialisation donnée par l'artefact et qui en fait met en jeu cette tension entre l'actuel et le virtuel.
Alors, merci beaucoup pour ces deux questions. Je repars de la dernière sur le potentiel. Chez Deleuze, il y a bien un usage du terme potentiel, un usage technique qui l'emprunte à Simondon, bien sûr, mais qui rejoindrait peut-être le sens sous lequel vous l'entendez, mais c'est très juste. Cette notion de potentiel, il y a un bon et un mauvais potentiel. C'est-à-dire que parfois, Deleuze utilise potentiel et virtuel comme des synonymes, et ce qu'il recuse, c'est la notion de potentiel comme une sorte de réserve finie ou déjà quelque chose qui serait une préfiguration ou une possibilité, voilà. Donc il la récuse, par contre, il maintient l'idée d'un virtuel qui serait, enfin, du potentiel qui serait compris au sens du virtuel, c'est-à-dire qu'une réserve ou une ressource, hein, comme quelque chose dans quoi l'individu, justement, le vivant, par exemple, hein, va puiser pour s'individuer, justement. La deuxième question, donc il y aurait une façon de. Il y aurait deux façons, selon vous, effectivement, de dépasser l'actuel, par excès ou par défaut, en fait. Par défaut, en revenant vers le virtuel, et par excès, c'est-à-dire à travers un suractuel qui serait en même temps une surdétermination ou un déterminisme. Mais je crois, ça Deleuze le rejette. Enfin, il rejette. Oui. Alors après, oui, on peut le mettre en discussion. Bah, moi, je serais, pour le coup. Côté de Bergson ou Deleuze, c'est-à-dire en pensant que la nécessité, c'est toujours une sorte de... Alors en même temps, chez Bergson, c'est plus compliqué que ça. Je dirais que la nécessité, c'est une sorte de stabilisation ou de régularisation du contingent. C'est-à-dire que c'est quelque chose... Bon, il n'y a pas de nécessaire, mais une régularité, quelque chose qui est... Bon, mais...
Autrement, que c'est toujours indécidable. Une lecture totalement contradictoire, les mêmes événements, les mêmes faits...
Il y aura un dieu leibnizien en fait au fond pour lequel tout serait le virtuel serait comment déplié.
Cette lecture de pure mathématique,
parce que
c'est sans bien dire ça, mais ces deux lectures étant totalement antinomiques, est-ce que c'est une question mathématique indécidable, enfin une question philosophique indécidable, c'est-à-dire si de manière totalement contradictoire mais d'expliquer la même chose, il n'y en a pas une qui peut se démarquer par rapport à l'autre, ou est-ce qu'il y aurait justement, est-ce que l'art par exemple peut-être un lieu pensé où ces deux possibilités se démarqueraient, enfin, comment est-ce qu'on peut questionner les durées comme on avance? Là, c'est une zone de grille de lecture, ce qui est très sympathique. Mais comment est-ce qu'on peut faire?
Je comprends.
Comment est-ce qu'on peut toujours questionner là-dessus?
On laisse la question ouverte. J'ai l'impression qu'elle est trop grande, cette question, pour y répondre. Alors, on a une dernière question brève et une réponse brève pour qu'on ne prenne pas trop de retard.
En fait, j'avais une question et finalement, vous exprimez beaucoup mieux à l'instant. Effectivement, je voulais revenir sur la question de l'artefact en disant que Simondon pouvait permettre de penser l'artefact comme un être qui s'individue et donc que dans une approche d'analyse de l'artefact, on peut... on peut le voir comme un être indéterminé, mais qui a un potentiel d'individuation dans lequel on peut, qu'on peut analyser, qu'on peut aborder, en essayant de décrypter ce potentiel. Ça permet, si on revenait à la question du disque dur ou d'un artefact comme les réseaux sociaux ou autre chose, ça permet d'étudier cette réalité à travers sa puissance. Ou sa force de transformation. Et la manière dont elle se co-individue avec les humains, puisque Simondon amène à analyser un petit peu au même niveau les objets, dans cette capacité, dans ce caractère à s'individuer, à se co-individuer, amène à analyser au même niveau les artefacts et les êtres vivants.
suggestion en fait hein, sur la. Je suis d'accord, oui, d'accord. Sur la...